Bonjour à tout le monde, à tous ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. Moi, j'ai la main sur le... Super. Il y a quelques semaines, on s'est réunis à Matania. Je sais que Pascal va faire un compte-rendu après sur un peu ce qu'on a dit à Matania. Non, c'était pas toi. Bon. Après. Alors, le conseil de l'Église nous avait sollicité il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on nous avait demandé de remplir une enquête en ligne. J'ai eu du mal à répondre à cette enquête, je ne sais pas vous, mais il faut trouver le temps pour réfléchir et tout ça. Mais il faut avouer que finalement, ce n'était pas si long. Et que le questionnaire était bien construit. Moi, j'ai trouvé que c'était bien construit. Après, chacun a son avis sur la chose. Il y avait des domaines de réflexion sur l'Église, et on nous demandait est-ce que notre Église remplit ce rôle-là ? Et puis, quelles seraient nos propositions d'amélioration ? Donc, tout allait bien jusque-là dans le questionnaire, jusqu'à ce qu'on arrive à la page 7. Du questionnaire dans lequel c'était écrit « Dans quelles actions en particulier vous verriez-vous œuvrer ?» J'ai trouvé que c'est bien amené. Quelle est l'Église qu'on veut, celle dont on rêve ? Là, il y a des gens qui ont fait des dessins sur l'Église dont on rêve. Mais c'est bien qu'il y ait cette partie après sur « Qu'est-ce que moi je veux faire ?» pour que ce rêve devienne une réalité. Je ne vais pas parler des réponses, je laisserai Pascal quand il voudra le faire, parce que moi, je n'ai pas les réponses. Ce n'est pas le but de mon propos ce matin. La réflexion que je voulais partager avec vous, c'était pourquoi c'est si difficile de répondre à cette question. Pourquoi c'est si difficile de mettre les mains à la pâte. Pourquoi c'est si compliqué de s'engager dans un ministère, de répondre à l'appel de Dieu. C'est toujours la même histoire, vous savez. Qui veut du chocolat chaud ce matin à l'église ? Ouais ! Est-ce qu'il nous faut du chocolat chaud ? Ouais ! Avec la joie. Comment est-ce qu'on veut le chocolat ? Chaud ! Comment est-ce qu'on a dit ? Chaud ! Chaud ! Qui va préparer le chocolat ? Ah non, en fait, j'ai déjà pris mon café ce matin, et puis il faut sortir les assiettes, il faut faire la vaisselle, on va éviter, on ne sait jamais, il y a des gens intolérants au lactose ou des choses comme ça. Donc, je veux parler de ça. Pourquoi est-ce que si, c'est si difficile de répondre à l'appel ? On a tous de bonnes idées, c'est merveilleux, on a tous une idée de ce qu'on devrait faire, mais quand c'est à nous de le faire, là on se freine. Et pourtant on a besoin de cet appel pour construire une église. Chacun d'entre nous, il est ici parce qu'il a reçu un appel. Alors pourquoi c'est si difficile de répondre à l'appel de Dieu ? Je pense que ce qui nous freine souvent, c'est que nous, au moins c'est ce qui arrive avec moi, ce qui nous freine souvent, c'est que nous ne nous sentons pas qualifiés pour accomplir la tâche. La première fois qu'on m'a demandé de prêcher, c'est ce qui m'a freiné. Non, mais moi, je ne sais pas prêcher. La première fois qu'on m'a demandé d'enseigner à l'école publique, moi, je ne sais pas comment faire avec les enfants. Mais pareil, quand on m'a demandé de jouer à la guitare à la louange, je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais fait ça. Pour jouer à la guitare, d'accord, il faut quand même savoir aligner trois accords. Mais il y a d'autres ministères dans lesquels on peut s'engager, et la plupart des engagements auxquels Dieu nous appelle, en réalité, nous sommes déjà qualifiés. Je veux partager avec vous ce verset dans Éphésiens chapitre 2. Versets 7 à 10. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire fierté. Car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Donc nous avons été créés pour ces bonnes œuvres. Est-ce que vous croyez vraiment ça? Nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est écrit dans d'autres versions de cette façon-là. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Le mot original en grec, c'est poiema. Il vient de poétesse, qui veut dire celui qui a une extraordinaire capacité à créer un chef-d'œuvre. Alors, imaginez-vous le Dieu de l'univers qui met en œuvre toute sa créativité, toute sa puissance pour créer son chef-d'œuvre. Et ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Un véritable poème dans nos vies. Dieu voit ce matin ici un recueil de poèmes, un recueil de poèmes les plus précieux dans cette salle. Nous, les poèmes, les créations de Dieu, sommes appelés à montrer toute la grâce de Dieu, l'incomparable richesse de sa grâce au monde à travers ces œuvres-là. Alors, ça crée des défis. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà préparé ces bonnes œuvres. Elles ne viennent pas de nous. Nous n'avons simplement qu'à nous engager. Alors, l'argument comme quoi nous ne sommes pas qualifiés, ça vient de tomber. Donc, qu'est-ce qui nous freine pour accomplir le plan de Dieu pour nos vies, pour cette Église? Je pense que nous sommes souvent freinés parce que pour nous engager, nous voulons savoir à quoi nous nous engageons. Je veux bien m'occuper de la garderie une fois, mais je ne veux pas faire ça toute ma vie non plus. Je veux bien faire le ménage une fois par mois, mais pendant combien de temps? Je veux bien aller rendre visite à quelqu'un qui est malade, qui est seul, mais combien de fois? Ou jusqu'où il faut aller? Nous voulons un appel qui soit clair, qui soit détaillé, bien défini. Un appel qui va guider toute ma vie. Nous voulons tout le plan, tout le contrat, qu'on nous lise toutes les clauses, les petites polices là, qui sont écrites en petits caractères avant de signer, avant de nous engager dans la tâche. C'est totalement humain, c'est parfaitement humain. Cela s'applique peut-être à quelqu'un qui vient d'entrer dans l'église, qui vient d'arriver à l'église. Vous dites, ouf, c'est quoi ce délire? Je rentre la première fois dans cette église et déjà on veut que je m'engage à quelque chose. Non, rassurez-vous, vous n'allez rien signer. On ne va pas vous demander de vous engager, on ne va vous obliger à rien, il n'y a pas de souci. Mais cela s'applique aussi à des gens qui sont des habitués de l'Église, qui sont des chrétiens depuis des années. Eux aussi, parfois, ils ont besoin de savoir tout. Nous avons besoin de savoir tout. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Je ne sais pas si je devais le raconter, mais... une fois, j'ai été convoqué au conseil de l'église. Alors, ce n'était pas ce conseil-là de cette église, ce n'était pas ça. C'était un autre conseil pour qu'on me laisse finir la prédication, sinon on va me faire descendre. J'avais une idée, j'avais à exposer une idée farfelue, une idée qui en plus ne venait pas de moi, une idée qui n'a jamais été acceptée, mais qui était totalement insensée. L'idée était de fonder une église. Alors, ça ne s'est jamais fait, et je pense que ce n'était pas la volonté de Dieu, à ce moment-là, d'essaimer dans une autre église. Mais ce qui m'a étonné, en fait, c'était la réaction des gens dans ce conseil. Des gens qui étaient des anciens de l'église, des gens... Que j'admire en plus pour leur maturité spirituelle. Mais on m'a dit, Diego, vas-y, c'est quoi ton plan? Ça va prendre combien de temps? quelles sont les étapes? Et puis, ça va coûter combien? Parce qu'il faut savoir de combien va être le chèque. Et là, j'ai dit, c'était pas mon projet déjà, c'était pas moi qui... C'est peut-être le projet de Dieu, j'en sais rien, il faut qu'on demande, mais qu'on prie. Mais ce dont j'étais très étonné, c'est qu'il voulait connaître tous les détails. Savoir exactement comment ça allait se passer. Alors que moi, je ne le connaissais pas, et moi, je ne les connais pas, toujours pas, ces détails. Moi, je travaille à l'université, vous savez, moi, je n'arrive pas à gérer ce truc. C'est affreux. En fait, je me rends compte que dans notre société, on a besoin, on adore la certitude absolue. Je travaille à l'université et chaque fois qu'il y a un événement particulier qui arrive, un événement extrême, quelque chose de marquant, ils appellent les universitaires, la radio ou les médias, la télé appellent les universitaires et leur demandent « Expliquez-nous pourquoi c'est arrivé, c'est la faute à qui ?» ça va arriver à nouveau quand pour les inondations, par exemple, il y a eu des inondations à Cannes il y a quelques années. Bon, c'est pas seulement à Cannes, il y a plusieurs fleuves qui sont débordés. La plage a été détruite et donc on nous a appelés. Donc la secrétaire a répondu, elle savait pas quoi répondre, donc elle a passé l'appel à quelqu'un d'autre et à quelqu'un d'autre. Finalement, ils prennent le premier qui passe. Pourvu qu'ils répondent à la question. Et puis, en réalité, s'ils tombent sur un chercheur qui soit vraiment honnête, qui fasse bien ce travail, ce chercheur va dire, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il va pleuvoir à nouveau. Ce qui s'est passé à la maison à la montagne, à Saint-Martin de Vésubie, on nous a demandé, mais quand est-ce que ça va arriver à nouveau? Ben, on ne sait pas. Peut-être demain, peut-être dans un an. Peut-être que ça ne va jamais arriver, mais on n'en sait rien. Et c'est extrêmement frustrant pour les médias, c'est extrêmement frustrant pour les gens de la rue, pour nous, qu'on nous dise « on ne sait pas, cette épidémie, quand est-ce que ça va terminer ?» On ne sait pas, les chercheurs ne savent pas. Et s'ils sont vraiment honnêtes, ils doivent le dire. Mais on n'aime pas cette incertitude, on aime qu'on nous donne des certitudes, on aime tout savoir. Alors, la bonne nouvelle, ou la mauvaise nouvelle, selon comment on le voit, c'est que Dieu nous appelle plutôt à la communion avec lui. Il nous appelle à l'abandon. Il nous appelle à la confiance. Dans la Bible, à aucun moment, les personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, elles ont reçu le plan complet depuis le début. Abraham, qui est considéré comme le héros de la foi, le père de la foi, Dieu lui a dit, va là-bas, il est allé, et il marchait toujours sans savoir où est-ce qu'il allait. David, il ne savait pas qu'il allait être roi, aucun des héros de la foi qu'il y a dans la Bible savait où est-ce que Dieu va les amener à la fin. Ils savent quelle est la prochaine étape, l'étape juste d'après, mais ils ne connaissent pas tout le plan d'emblée. Certaines personnes ont tendance à voir Dieu comme si c'était Siri. Vous connaissez Siri? Non, ceux qui ont l'iPhone. J'ai un ami qui a le téléphone dans sa montre. Je ne sais pas comment ça se fait. Il laisse le téléphone à la maison et il a sa montre qui se connecte au téléphone. Et donc, il est en train avec moi de marcher dans la rue et il a une idée comme ça qui lui vient à la tête. Il se pose une question, il dit, « Dis Siri, appelle ma femme. » Il est en train de parler avec moi, « Dis Siri. » Il est où la pharmacie? Et quand j'y pense, ma prière à moi, elle ressemble à ça. Seigneur, dis-moi quand est-ce que mes projets vont s'accomplir? Quand est-ce que je vais réussir à faire ça? Pour avoir la prédication, je vous dis pas comment ça se passe. Mais nous avons tendance à utiliser Dieu comme une ressource. Quand on a besoin de lui, quand on est dans le pétrin, c'est là que Dieu, est-ce que tu peux m'aider là, dans ce... Et Dieu, ce qu'il nous demande, c'est plutôt que nous construisions d'abord une relation intime avec lui. Dieu nous a appelés à l'aimer, à aimer notre prochain. Il nous a appelés à le glorifier, à le servir, à grandir, à être sanctifié. Il nous a appelés à pardonner, à être humble, à être généreux, à combattre pour la justice, à défendre les opprimés, à briller dans le monde, à marcher d'une façon qui soit digne de notre vocation. C'est ça l'appel de Dieu à chaque jour dans nos vies. Je vous propose de nous attarder sur un autre passage de la Bible, celui de l'appel de Samuel, un passage qui est très connu, je pense, par certains, peut-être pas par d'autres. C'était un grand prophète de l'Ancien Testament. Alors je pose des éléments de contexte. Anna, qui était la mère de Samuel, était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle promet au Seigneur en larmes, fondue en larmes, de consacrer son fils, si Dieu lui donne un fils, de le consacrer au service de Dieu. Et puis un an après, elle tombe enceinte, elle accouche, elle allaite son fils, donc après le sévrage, il le confie au temple, il le confie au prêtre qui s'appelle Élie, au grand prêtre. Et Élie avait d'autres enfants, et le chapitre 2 de 1 Samuel nous dit que les fils d'Élie, ils étaient des vauriens, ils volaient le sacrifice qui devait être fait à Dieu, et ils disaient, c'est écrit littéralement, leur péché était grand, ils faisaient outrage à l'offrande du Seigneur. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive l'appel de Samuel, le petit Samuel, le petit ado. Donc, je vais vous afficher le passage. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 4. Le petit Samuel servait le Seigneur en présence d'Élie. La parole du Seigneur était rare en ce jour-là. La vision n'était pas chose courante. Ce jour-là, Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la révélation complète de la parole de Dieu comme nous l'avons nous maintenant dans la Bible. Pour faire connaître sa volonté, Dieu avait besoin de prophètes. Il devait parler à travers eux. Mais pour cela, il fallait que les prophètes soient attentifs à la parole de Dieu. Or, à l'époque, les soi-disant prophètes étaient des vauriens, des faux prophètes. Ils avaient des visions. Ils disaient qu'ils avaient des visions, mais ces visions-là ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Elles ne provenaient pas de Dieu. C'était plutôt leur projet personnel et ils utilisaient Dieu à leur fin. Alors, pourquoi Dieu appelle Samuel ? Parce qu'il servait le Seigneur, comme nous dit le verset. Si on veut vraiment connaître l'appel de Dieu dans sa vie, d'abord il faut qu'on réponde à un autre appel qui est l'appel de Dieu à le connaître, à l'honorer, à avoir un cœur qui peut-être n'est pas parfait mais qui est prêt à se laisser modeler par Dieu. Un cœur qui ne méprise pas la parole de Dieu. L'appel de Dieu est en concordance avec notre attitude envers la parole de Dieu. Certaines personnes peuvent penser que la maturité, c'est de faire ce qu'on veut. Ma fille, elle me dit, je veux grandir, comme ça je ferai ce que je veux. Mais la maturité spirituelle vient de l'obéissance, du fait d'être attentif à la parole de Dieu. Mais continuons la lecture. Les versets suivants, je reprends au verset 4. Le Seigneur appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Il se rendit en courant près d'Élie et lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Celui-ci, j'imagine qu'il dormait, celui-ci répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, allait trouver Élie et lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Il répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, la parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel pour la troisième fois. Il se leva et allait trouver Élie. Il lui dit, « Me voici parce que tu m'as appelé. » Alors Élie, là, il comprit que le Seigneur appelait l'enfant. C'était le Seigneur. Élie dit à Samuel, tu sais quoi, retourne te coucher. Et s'il t'appelle, tu lui diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel dit, parle, ton serviteur écoute. Alors Samuel n'a pas compris l'appel de Dieu la première fois. Il n'a pas compris la deuxième fois. Il n'a pas compris la troisième fois. C'est comme ça pour nous aussi. Souvent, on a besoin de temps. On a besoin d'apprendre à écouter Dieu. Et Dieu est très patient avec nous. Il nous appelle plusieurs fois. Généralement, quand on reçoit l'appel de Dieu, on pense à des choses qui nous sont familières. C'est pour ça que Samuel, il court vers Élie, parce que pour lui, Élie représente le patriarche, la tradition. S'il y a un appel, il doit venir, il doit provenir forcément d'Élie. Mais souvent, Dieu nous appelle à de nouvelles choses. Et cela vaut pour celui qui commence dans son chemin dans la foi, mais aussi pour ceux qui ont déjà beaucoup marché, pour les anciens. Ce n'est pas parce que je suis chrétien depuis très longtemps que je ne dois pas apprendre tous les jours. Je trouve que la démarche du conseil de nous poser ces questions, elle est courageuse quand on nous demande quel doit être le projet de l'Église. Mais quand on répond à cette question, c'est facile de tomber dans des choses qu'on connaît déjà, auxquelles nous sommes déjà habitués. C'est plus difficile de penser de manière différente, de concevoir un projet d'Église ambitieux, vraiment ambitieux, qui nous fasse sortir de notre zone de confort. Or, c'est peut-être à cela que nous appelle Dieu en tant qu'Église du Rio. Ce qui est important est que nous devons à chaque instant apprendre à discerner entre l'appel de Dieu et l'appel des hommes. Ce qui est important, c'est d'accepter que nous avons encore besoin d'apprendre tous les jours de Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas de tout savoir à l'avance. C'est marcher dans l'obscurité. Même quand je ne comprends pas où je vais, quand je ne saisis pas pourquoi Dieu me dirige dans ce chemin. Nous ne devons pas trouver notre appel. C'est l'appel qui nous trouve. C'est Dieu qui nous trouve lorsque nous vivons dans une communion avec lui. Alors, pourquoi je ne m'engage pas? Pourquoi j'ai du mal à m'engager? Je voulais aujourd'hui démontrer qu'il y a des fausses vérités qui nous empêchent d'accomplir le plan de Dieu. Parce que je ne suis pas qualifié? Mais si, je suis déjà qualifié. Parce que je ne connais pas tout le plan? Je n'ai pas besoin de le connaître. Parce que mon appel, c'était une autre chose de ce que Dieu m'avait déjà dit de faire. L'appel de Dieu peut changer aussi en permanence. Il ne nous appelle pas pour une seule chose dans notre vie, une fois pour toutes, depuis le début. Il peut nous appeler pour plusieurs choses. Il y a encore une autre chose, un autre constat qui nous empêche d'aller vers l'engagement et de répondre à l'appel de Dieu. Beaucoup de personnes sont découragées aujourd'hui. Laurence l'a dit tout à l'heure, on devrait vivre dans la joie et pourtant on est souvent découragé. Nous vivons dans une période de morosité ambiante. Nous pouvons rejeter ça sur la pandémie, si vous voulez. Notre pasteur, il n'est pas là, il est absent. Il y a une crise économique, la planète va mal, le climat est fou. Tout cela est vrai. Mais ça l'était aussi avant. Pendant toute ma vie de chrétien, j'ai entendu les mêmes choses. Le monde va mal, le pays va mal, l'église va mal, mon travail va mal, ma famille va mal. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'amour de Dieu ne nous abandonne jamais. Et son appel aussi, il ne nous abandonne jamais. Romains 11, verset 29 dit « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Dans le cas de l'appel de Samuel, on pourrait s'attendre à ce que l'appel de, de Dieu se tarit, s'épuise. Mais le texte de 1 Samuel nous dit « L'Éternel vint et se présenta et il appela, comme les autres fois. » L'appel de Dieu est inaltérable et il est inébranlable. La seule chose que nous devons faire est de rester à notre place. Comme le conseille Élie à Samuel quand il comprend finalement que c'est Dieu qui appelle Samuel. Reste à ta place. L'appel de Dieu va s'accomplir dans le repos. On n'a pas besoin de courir vers l'appel de Dieu. Ce n'est pas dans l'agitation qu'il va arriver. Ce repos vient de la certitude sur le fait que nous sommes l'œuvre de Dieu, que nous sommes son poème, qu'il a préparé son plan pour que nous l'accomplissions. Et il vient aussi de la communion avec lui. Vous connaissez peut-être le nom de Billy Graham, grand prédicateur évangéliste américain. Peut-être on connaît moins, malheureusement, le nom de son épouse, Ruth Graham, qui a écrit de nombreux ouvrages, de nombreux livres, une femme extraordinaire. Vers la fin de sa vie, elle est décédée en 2007, je crois qu'un an avant qu'elle décède, elle a donné une interview et elle a déclaré qu'elle avait déjà choisi son épitaphe. Vous savez, le petit mot, le petit paragraphe qu'on met sur la tombe, elle avait déjà choisi et racontait avec beaucoup d'humour qu'elle avait trouvé ce texte sur l'autoroute. Elle est en train de conduire, ou son mari était en train de conduire, mais sur l'autoroute, elle voit un panneau et elle s'est dit, c'est ça le message que je veux sur ma tombe. C'est quand même incroyable. Donc je suis allé voir, pas sa tombe, je n'ai pas pu aller aux États-Unis, mais la photo sur Internet, et c'est vrai. Elle a écrit vraiment le texte du panneau sur sa tombe. Je vais vous montrer la photo. Ah mince, je ne vous avais pas montré la fin du verset. Il y a un petit caractère chinois parce qu'en fait elle était née en Chine. Mais c'est marqué « End of construction ». Thank you for your patience. C'est amusant, mais c'est beau aussi. C'est le fruit d'une vie dédiée à apprendre que Dieu fait son œuvre en nous et qu'il fait son œuvre à travers nous. Et puis, il va arriver jusqu'au bout, malgré nos défauts apparents, malgré nos hésitations, malgré notre incompréhension de ce qu'il veut faire. Même dans les périodes les plus sombres, que l'on soit un jeune homme comme Samuel ou un ancien comme Élie, la lampe de Dieu n'est pas éteinte, comme dit le texte de Samuel. Dieu a un plan, un projet pour chacun d'entre nous. Il a un projet pour cette Église, mais il ne va pas nous le dévoiler d'un coup. Il va par contre l'accomplir. Il a mis toute sa créativité, toute sa puissance pour le concevoir. Et il mettra toute sa puissance pour l'accomplir.